Les par actualités. Les par actualités. Alors aujourd'hui à l'émission, je m'entretiens dans quelques secondes avec Madame Clara Qualtro, ministre des Sports et des Personnes Handicapées. Sur l'île de Montréal, l'hôpital Shriners pour enfants nous présente José, un robot en service pédiatrique. Nous ferons un gros plan aussi sur l'AVC qui peut toucher aussi des jeunes. Et puis nous ferons connaissance avec Laurence Perrault-Rousseau, directrice de l'Association québécoise des étudiants ayant des incapacités au poste secondaire. Et enfin, nous célébrerons à Cannes le premier festival du film sur le handicap. Sa nomination au titre de ministre a semé un vent d'optimisme dans la communauté des personnes en situation de handicap. Madame Carla Qualtro, ministre des Sports et des Personnes Handicapées. Bonjour, Madame la ministre.
Bonjour.
Bonjour. Nous sommes ravis que vous ayez accepté notre invitation aujourd'hui.
Merci.
Madame la ministre Carla Qualtro, en ce moment même, nous assistons et participons même à des consultations publiques d'Est en Ouest, autour de la grande question qu'est l'accessibilité.
Oui.
Êtes-vous contente des premiers résultats? D'abord, qu'attendiez-vous de ces consultations et avez-vous l'impression que ça fonctionne?
Oui, bien, ça a été très bien reçu par la communauté des personnes handicapées et leurs activistes. Mm-hmm. On n'a jamais fait une telle consultation au Canada d'une côte à l'autre et c'était... il y a bien une attitude optimiste de ce qu'on peut faire avec la loi qui va être réalisée après les consultations. On n'a jamais eu une discussion au niveau fédéral des issues des personnes handicapées et c'est bien le temps au Canada pour l'avoir. Mmh. Et on veut le faire et on va le faire.
C'est même, madame, la raison pour laquelle j'ai bien dit qu'un vent d'optimisme avait soufflé sur la communauté, parce que je voudrais préciser, au cas où certaines personnes ne le sauraient pas, que vous êtes vous-même handicapée visuelle depuis la naissance.
Oui.
Et puis, vous avez été avocate, vous avez beaucoup travaillé sur des dossiers comme ça, publics. Et alors, vous étiez la personne, je pense, toute désignée. Madame...
Oui, mais j'étais avocate des droits de la personne.
C'est ça, exactement.
Ce qui était très frustrant, c'était qu'on doit attendre jusqu'à ce que les personnes soient discriminées avant de leur aider. Et maintenant, avec cette loi, on va avoir la capacité de prendre des décisions et de...
Oui.
Avant que la discrimination se passe.
Mais alors, cette loi exactement, loi cadre qui va nous venir au niveau fédéral, à quoi va-t-elle servir précisément?
Au niveau fédéral, ça va servir à soit les emplois, les services publics, les programmes. Ça va nous aider à avoir des standards, je ne sais pas le mot en français, excuse-moi, pour que les employés sachent ce qu'on doit faire pour améliorer l'accessibilité.
Oui. Et ça va se traduire concrètement pour les gens qui nous entendent en ce moment. Ça va se concrétiser comment tout ça?
Ça va... Alors, on va dire au monde ce qu'on expecte, excuse-moi.
Ce qu'on attend, exactement.
Ce qu'on attend, excuse mon français de Vancouver.
Ah, oh, mais écoutez, si je pouvais avoir un anglais comme votre français, je serais bien contente.
Mais il y a des niveaux au niveau fédéral où, comme j'ai dit, il faut attendre pour aider les gens. Et ça va dire aux services, aux programmes, ce qu'on doit expecte avant que ça se passe.
Mais est-ce qu'il va y avoir des mesures contraignantes? Est-ce que, par exemple, ceux qui ne respectent pas cette loi-là vont se faire taper sur les doigts?
Oui, absolument. L'objectif, c'est de changer notre perception de l'accessibilité. Oui. Alors, nous devons montrer le minimum ce qu'on va faire, mais aussi avant changer les attitudes.
Oui.
Sur l'accessibilité. C'est bon pour le travail, c'est bon pour le Canada, c'est bon pour l'économie. On sait ça. Il y a beaucoup de monde, il y a 3,5 millions de Canadiens qui ont un handicap, qui sont bien éduqués, qui sont des bons travailleurs, qui sont prêts à travailler. Ils ne reçoivent pas d'emploi. Alors, ça va aider beaucoup. La diversité, c'est bon pour le travail, c'est bon pour l'économie. Mm. Et les personnes qui ont un handicap sont très innovatives parce que nous habitons dans un monde qui n'a pas été battu pour nous. Et toute la vie, on fait des choses innovatrices. Je ne sais pas le mot, excuse-moi.
Oui, c'est beau. On vous comprend très, très bien, madame.
Okay.
Oui, vraiment, vraiment.
Mais c'est que... Si on utilise cette innovation dans l'emploi ou dans les jobs ou dans l'économie, ça aide tout le Canada.
Mmh. Et vous savez, ce qui est surprenant dans vos propos, c'est qu'on entend rarement une personne aussi haut placée, une ministre, dire « nous ». Et je pense que c'est ça aussi qui fait non, mais c'est déjà important, je pense, pour la communauté.
Oui, je fais partie de cette communauté.
Voilà, c'est
tout
ça.
Tout le monde fait partie. C'est même pas seulement moi,
non,
mais tous
non.
Les Canadiens, les Canadiens font partie. Tout le monde connaît quelqu'un qui a un handicap ou un enfant, ou un oncle, un travailleur, un ami. Ça touche nous tous. Et nous devons parler comme ça pour réussir ce qu'on va réussir.
Madame la ministre Carla Quattro, est-ce que dans d'autres pays, il existe des lois comme celles que vous voulez mener à bien?
Oui. Aux États-Unis, ils ont une loi qui fait à peu près ce qu'on veut faire, mais cette loi-là touche aussi les droits de la personne et évidemment, nous ne devons pas le faire ici au Canada. Mais ça fait 25 ans et nous pouvons faire mieux que cette loi. Et il y en a aussi à Ontario depuis 10 ans. Et ça, c'est au niveau provincial. Alors, pour nous, ça va être au niveau fédéral. Mais pour moi, c'est aussi le leadership du gouvernement. Ça, non seulement par la loi qui va être réussie à propos de ces consultations, mais on dit directement aux Canadiens que c'est un issue très important pour notre gouvernement. Et que c'est une priorité, c'est la number one priorité
oui,
pour moi dans mon lettre de mandat. Alors, je dois le réussir, mais aussi on doit avoir ces conversations. Et c'est difficile, c'est pas facile ce qu'on veut faire. Alors, ça va prendre toute l'énergie de tout le monde. Tout le monde qui veut en faire partie peut en faire partie.
Et puis, dites-moi, vous êtes maintenant donc ministre des personnes handicapées, mais aussi du sport.
Oui.
Et là, vous avez réussi à marier les deux. Vous arrivez de Rio.
Oui, vous devez dire merci au premier ministre pour ce mariage-là. C'est les deux passions dans ma vie et il m'en a donné responsabilité les deux. Moi aussi, j'étais athlète paralympique. Alors,
oui.
J'ai nagé aux Jeux paralympiques. Et puis, je viens hier de retourner des Jeux paralympiques à Rio. Et notre équipe fait excellent. Je suis très fière.
Écoutez, oui, vous savez que nous avons d'excellents chiffres ici. Je ne sais pas si vous le savez, mais par exemple, hier, jour 7, ça a été la meilleure journée au Canada. Six médailles.
Oui, et puis des médailles d'or et d'argent. Alors, c'est des excellents résultats. Moi, j'ai eu l'occasion de donner la médaille d'or à Aurélie Rivard.
Oui!
La première médaille. Et pour moi, ça fait 28 ans que j'étais sur le podium. Et puis, je suis revenue et j'ai donné à un héros canadien sa première médaille. Alors, c'était... il y avait beaucoup de...
D'émotion.
D'émotion, absolument. Avec
oui, ça. Des deux côtés, j'imagine.
Oui, oui.
Des deux côtés.
Elle est merveilleuse. Elle est fantastique. Nous sommes très chanceuses d'avoir Aurélie sur notre équipe. Et puis, vous avez Benoît et puis Chantal Petitclerc comme le chef
oui,
de mission.
Oui.
J'espère voir ça continue.
Mais oui, c'est ça. Et puis, nous avons ceux qui ont peut-être moins réussi, mais on pense à eux beaucoup. On pense à M. Mainville, par exemple.
Oui.
Pierre, vous savez qu'il a déjà été chroniqueur ici à notre émission.
Ah Canada. Oui, OK.
Oui, absolument.
Non, mais il y a des histoires. Ça, c'est le... Ça, c'est le sport.
Ça, oui, c'est ça.
D'un jour à l'autre, on ne sait pas ce qui va se passer. Et on travaille fort, on fait nos mieux, on ne laisse rien sur le terrain. Et puis, on voit les résultats. C'est ce qu'on peut faire.
Madame la ministre, est-ce que vous allez venir à Montréal et à Québec en novembre à l'occasion de la tournée Canada Accessible?
Bien, nous n'avons pas encore finalisé mon horaire, mais j'espère que oui.
Parce qu'écoutez, oui. Si vous venez à Montréal, il faut nous faire une promesse. Vous savez que nous sommes la radio numéro 1 à Montréal et je pense d'ailleurs partout au Canada,
oui.
qui travaillons au service de la communauté des personnes qui vivent un handicap. Et
oui.
Je pense que c'est ce
oui.
que vous faites aussi. Alors, tout nous relie.
Ça va être un honneur pour moi.
Alors, écoutez, on vous attend peut-être à Montréal.
Oui.
Et sinon, j'espère avoir le plaisir de vous reparler sur les ondes.
Absolument.
Et je vous remercie infiniment d'avoir accepté notre invitation. Je m'entretenais avec Mme Carla Quattro, ministre des Sports et des Personnes handicapées. Au revoir, madame, et bonne journée.
Au revoir, toi aussi.
Retour au parc actualité ici sur l'île de Montréal avec cette nouvelle, l'hôpital Shriners pour enfants qui ouvre son centre de simulation pédiatrique. Les dirigeants de l'hôpital Shriners pour enfants Canada et les membres du club Shriners de Kingston inaugurent le premier centre de simulation pédiatrique dans le réseau des hôpitaux Shriners pour enfants. Il s'appelle José. Ah, de quoi s'agit-il? Eh bien, il s'agit d'un mannequin. José est plus précisément un simulateur de jeunes patients haute fidélité qui simule un vaste éventail de conditions allant d'un enfant en santé qui parle à un patient dans un état critique qui ne présente plus de signes vitaux. Le simulateur de patients constitue un outil de formation parmi beaucoup d'autres au centre de simulation pédiatrique nouvellement ouvert au deuxième étage de l'hôpital Shriners pour enfants. Canada. Le centre changera la façon dont les professionnels de la santé sont formés et améliorera, en fin de compte, la qualité des soins et la sécurité des patients. Le centre permet aux praticiens de la santé, que ce soit en chirurgie, en médecine, en soins infirmiers, inhalothérapie et les professions paramédicales, d'effectuer des simulations réalistes haute fidélité. En plus de José, le simulateur, qui représente un garçon de 6 ans, je vous le rappelle, le centre comprend plusieurs salles de formation axées sur la simulation. Il compte notamment un laboratoire chirurgical multifonction, incluant 6 stations chirurgicales avec dispositifs rétractables et suction, un système d'aération d'hôpital et 6 lits ajustables radio-translucides. Autrefois, les compétences chirurgicales étaient acquises en salle d'opération. Mais la complexité des procédures chirurgicales, de même que la réduction du temps disponible en salle d'opération, exige qu'on ait recours à d'autres moyens de formation. Alors, grâce au centre, au lieu de prendre du précieux temps en salle opératoire, les résidents en chirurgie peuvent désormais acquérir et perfectionner leurs compétences dans le laboratoire de compétences chirurgicales. Un petit rappel quand même. Pour dire qu'il a été fondé à Montréal en 1925, les hôpitaux Shriners pour enfants Canada est le seul établissement parmi le réseau des 22 hôpitaux Shriners à être situé au Canada. Les autres, je vous le rappelle, étant situés aux États-Unis et au Mexique. Cet hôpital bilingue de soins actifs de courte ou longue durée offre des soins ultra spécialisés d'orthopédie à des enfants d'un bout à l'autre du Canada, des États-Unis et des quatre coins du monde. Sur l'île de Montréal encore, une conférence gratuite sur la santé auditive qu'il nous semblait importante de partager ici. Le service des loisirs et de la culture de la ville de Vaudreuil-Dorion invite les citoyens à une conférence offerte par l'Association des devenus sourds et des malentendants du Québec. Le conférencier sera M. Michel Nadeau et l'événement aura lieu ce vendredi, donc demain, le 16 septembre à 19h, à la bibliothèque municipale du 51 rue Jeannotte, ça c'est juste à côté de l'aréna. Lors de cette rencontre sur la santé auditive, M. Nadeau abordera les éléments suivants, les types de surdité et leur définition, le taux de prévalence, les symptômes, le comportement, les moyens compensatoires, donc les multiples aides à l'audition et les stratégies de communication notamment. Je vous le rappelle, c'est demain, vendredi 16 septembre à 19h, à la bibliothèque municipale au 51 rue Jeannotte à Vaudreuil-Dorion. Et puis, gros plan aujourd'hui sur l'AVC, suite à un article paru dans Le Soleil et signé Elisabeth Fleury. C'est sorti hier, 14 septembre. Elisabeth Fleury qui nous parle d'un individu qui a fait un AVC à l'âge de 32 ans. Alors ça s'appelle se relever d'un AVC à 32 ans. Monsieur Steve Sevigny n'avait que 32 ans lorsqu'il a subi cet AVC qui a complètement paralysé son côté gauche. Il a dû réapprendre à marcher, à manger, à brosser ses dents. Et 4 ans plus tard, le sportif de Stoneham Court joue au soccer et au deck hockey. Il est sur le point de réaliser son rêve de devenir policier. Alors, rien ne prédisposait ce jeune père de famille à l'AVC, hein, celui qu'il a subi le 29 mars 2012. Il avait un mode de vie sain et les médecins n'ont découvert aucun problème de santé ou anomalie congénitale qui aurait pu expliquer cet accident. Alors, pourquoi en parlons-nous? Eh bien, simplement parce qu'on sait qu'effectivement, chez les jeunes, c'est plus rare, mais voyez-vous, cela nous prouve que cela peut arriver. Généralement, cela peut arriver lorsque les personnes rencontrent des problèmes cervicales, notamment, mais rarement pour un problème relié à, soit au cholestérol, soit, on le sait, aux artères qui se bouchent. En tout cas, c'est quelque chose qui peut arriver. Alors, mais pour le moment, l'AVC, on le sait, c'est encore une pathologie grave qui touche surtout les personnes cérébrales. AVC pour accident vasculaire cérébral ou attaque cérébrale, dont notamment a été victime l'ancien président israélien Shimon Peres, est une pathologie grave qui touche principalement les personnes âgées et qui peut, on le sait, entraîner des séquelles nécessitant une prise en charge de longue durée. Savez-vous qu'il touche plus de 15 millions de personnes par an dans le monde et plus de 6 millions en meurent chaque année, selon la Fédération mondiale du cœur basée à Genève. 5 autres millions de personnes souffrent de séquelles à des degrés divers. L'AVC, qui, on le sait, résulte de l'interruption de la circulation sanguine, je vais finir par vous le dire, et qui prive d'oxygène et de nutriments les zones du cerveau touchées. Le traitement de base, c'est la thrombolyse intraveineuse qui consiste à injecter un médicament capable de désagréger le caillot obstruant l'artère, mais qui comporte néanmoins un risque hémorragique à prendre en compte et qui n'est pas adapté à tous les cas en plus. Et puis, en cas d'AVC d'origine hémorragique, un geste chirurgical peut s'avérer nécessaire. Et vous le savez peut-être, pour avoir rencontré des gens qui ont souffert et qui souffrent encore de cette maladie-là, eh bien malheureusement, pour les survivants, les séquelles peuvent être importantes. Paralysie, troubles de la parole, troubles cognitifs, ainsi qu'un risque de récidive élevé. Voilà ce qu'on avait peut-être à nous dire. Je dis peut-être parce qu'il y aurait eu certainement encore beaucoup plus à dire sur le sujet, mais nous reviendrons assez régulièrement sur l'AVC, donc. L'ACV, c'est petit. Et j'ai en face de moi, elle est entrée en studio avec Pitou, Laurence Perrault-Rousseau. Bonjour, Laurence.
Bonjour, enchantée.
Enchantée également de vous rencontrer. Laurence, vous représentez un organisme, vous êtes directrice de l'Association québécoise des étudiants ayant des incapacités au post-secondaire.
Exact.
Ça veut dire que l'acronyme, c'est l'ACEPS, vous dites ça comme ça?
Exactement.
Ah, ben écoutez, je suis contente, alors je peux vous l'appeler, c'est l'AQEIPS. Je voudrais que vous nous présentiez cette association dans un premier temps.
D'accord. Alors, l'ACEPS, c'est une association de défense des droits des étudiants qui sont au postsecondaire et qui ont un handicap.
OK.
Donc, notre rôle, c'est d'accompagner certains étudiants qui vont nous appeler pour nous dire, pour nous signaler qu'il y a un accommodement qui leur a été refusé ou qu'il y a un professeur qui est récalcitrant. Donc, de les accompagner vers la pleine obtention de leurs droits.
Oui, je comprends.
Évidemment. Mais c'est aussi de faire on va faire de la sensibilisation dans les écoles. On va rencontrer les étudiants parce qu'ils ne savent pas nécessairement c'est quoi leurs droits.
Non, c'est ça. Parce que déjà, vous me surprenez en disant qu'il y a des professeurs récalcitrants.
Ça, c'est fréquent.
Ah, pardon.
C'est fréquent.
C'est parce que ça me semble tellement aberrant.
Oui, je suis d'accord avec vous, c'est aberrant. Mais ça arrive. Ça arrive de moins en moins, heureusement, on est content. Mais ça arrive encore. que certains professeurs qui connaissent moins bien certains types de handicap. On parle beaucoup en ce moment des troubles d'apprentissage, des handicaps dits invisibles. Mm-hmm. Donc, donner des accommodements à des gens qui ont des handicaps dits invisibles, ça peut entraîner un questionnement. Accommodement, pour certains, veut dire privilège. Ce n'est pas du tout une association qu'il faut faire et qui est logique, mais c'est un préjugé sur lequel il faut travailler.
Absolument, voilà. Mais oui, c'est vrai. Oui, parce que effectivement, il me semble entendre bien, oui, ben là, on sait bien, tu sais, il a un handicap, il va être privilégié.
C'est logique, mais ça existe.
Ça existe. Quels sont les... Bon, vous nous en avez parlé un petit peu, mais je vous ai peut-être interrompu. Est-ce qu'il y a d'autres missions également au sein de l'ACEPS?
En fait...
Ou quelques dossiers chauds, comme on dit. Sur quoi on travaille en ce moment?
Plusieurs dossiers chauds. Par exemple, je vais rebondir sur Mme Caltrow, que vous avez interviewée tout à l'heure. Oui. Nous, on travaille depuis deux, trois semaines, justement, sur la consultation.
Oui.
On veut être présent dans les consultations publiques qui auront lieu. Mais aussi, on fait un document pour remettre.
Oui.
Pour le remettre et...
C'est là pour ça, il faut, bravo.
Oui,
il faut que les organismes fassent ça en ce moment. Ça me semble essentiel. Quoi.
Oui, tout à fait. Et on travaille là-dessus d'arrache-pied parce que, l'éducation en tant que telle, notre domaine d'expertise n'est pas de compétence fédérale. Mais l'emploi est de compétence fédérale. Et... nous, on travaille sur le postsecondaire. Donc, postsecondaire, ça mène à l'emploi. Donc, c'est aussi un dossier sur lequel on travaille constamment.
Oui.
Donc, pour nous, c'est important de faire entendre notre voix là.
Est-ce que vous avez l'impression quand même que les choses vont en s'améliorant?
Oui et non. Oui. Soyons positifs, disons oui. Mais il y a encore tellement de travail à faire. Si on parle, par exemple, en éducation, comme tout à l'heure on disait, il y a certains professeurs qui voient encore accommodement comme privilège et tout ça.
Oui.
Mais il y a encore un travail au niveau de l'emploi, il y a encore un travail énorme. Plusieurs centaines de milliers de personnes en situation de handicap qui sont sans emploi. Pourquoi? Parce que les employeurs ont certaines réticences. Parce que les emplois ne sont pas accessibles, sont dans des buildings qui ne sont pas accessibles.
Mais oui.
Donc, tout simplement pour ça, tu peux ne pas pouvoir postuler.
Exactement, c'est terrible, oui.
Donc, il y a beaucoup de travail.
Oui, hein, et du coup, on va vous revoir souvent à cette émission-là parce qu'on tient à se tenir au courant et à tenir au courant les auditeurs de Canal M sur cette association qui fait beaucoup pour les étudiants en incapacité au postsecondaire. Aviez-vous aujourd'hui autre chose, un message que vous auriez voulu nous passer, Laurence Perrault-Rousseau?
Je voulais faire un petit portrait large de les choses qu'on va travailler cette année.
Allez-y donc.
Donc, je voulais vous parler de la formation professionnelle qui est souvent un choix pour les étudiants en situation de handicap, mais qui est très peu flexible.
Oui.
Donc, sur l'organisation de l'horaire et tout ça. Donc, avoir des accommodements quand tu es en formation professionnelle, ça, c'est complexe. Donc, c'est un dossier sur lequel on veut travailler cette année.
D'accord.
On veut travailler aussi sur les investissements parce que, Il y a quelques semaines, le nouveau ministre de l'Éducation annonçait qu'il y aura un investissement dans la commission scolaire de la Naudière. Mais en fait, et certaines personnes me demandaient si je m'en réjouissais, mais je leur ai répondu, c'est comme donner une pointe de tarte à quelqu'un à qui il y a un an t'enlever le gâteau complet.
Ah oui.
Donc, on veut travailler là-dessus sur comment les investissements sont faits, quelle est la logique là-dedans, et puis... donner si peu d'argent, quand même, c'est questionnable.
Mm-hmm.
Et notre grand sujet qui englobe tout, c'est l'inclusion. On a beaucoup travaillé mais la société a beaucoup parlé d'intégration dans les dernières années. C'est-à-dire que là, on est rendu à un point où l'intégration, on a vu que ça ne fonctionnait pas vraiment. Que mettre les étudiants en situation de handicap dans des classes spécialisées, ça s'appelle d'inclusion, c'est pas de l'intégration.
Non, c'est ça exactement.
Donc, nous, on travaille sur l'inclusion, c'est-à-dire de prendre les personnes en situation de handicap et de les inclure dans le groupe sans qu'ils soient différenciés du groupe.
OK. Donc, oui, je comprends bien.
Là-dessus, on parle souvent de la conception universelle de l'apprentissage qui commence au Québec. Là. C'est arrivé aux États-Unis dans le tournant des années 2000 et ça commence ici. Mais c'est une bonne méthode pour les professeurs d'adapter leur matériel à tout le groupe et donc de pouvoir inclure les personnes qui en ont besoin.
Bien sûr.
Tu peux avoir l'accommodement si tu en as besoin, puis si tu ne le veux pas, ben, tu ne le prends pas.
Exactement. Eh bien, écoutez, merci beaucoup, Laurence Perrault-Rousseau, pour toutes ces informations. Nous vous retrouverons, comme je le disais, d'ici quelques semaines. On aura d'autres nouvelles à partager. Je rappelle que vous êtes directrice de l'Association québécoise des étudiants ayant des incapacités au post-secondaire et que vous avez eu la gentillesse de vous déplacer en studio.
Ça me fait plaisir.
Merci beaucoup.
Merci.
Oh, j'ai envie de vous partager ceci. En fait, c'est peut-être pas une première, je pense que c'est une deuxième, mais quand j'ai lu cette nouvelle, ça m'a fait très plaisir. Laurence et vous toutes et vous tous qui nous écoutez, à Cannes, oui, à Cannes, le pays la ville du festival de Cannes en France, eh bien, on déroule le tapis rouge pour le festival du film sur le handicap. À partir de demain, vendredi 16, la Croisette accueille la première manifestation entièrement dédiée au cinéma traitant sous toutes ses formes du handicap. C'est une première mondiale. Alors, quel est le point commun, par exemple, entre les films Intouchables, La famille Bélier, De toutes nos forces ou encore Sur le chemin de l'école? Eh bien, tous ces films à succès évoquent de près ou de loin le handicap et tous témoignent de l'évolution du cinéma vis-à-vis des personnes à mobilité réduite, des sourds ou encore des personnes aveugles. Et justement, le cinéma a changé le regard du grand public sur le handicap. Certainement, mais il y a encore beaucoup de travail à faire, a-t-on tout de suite envie d'ajouter, mais c'est vrai quand même. Souvenons-nous, par exemple, et parce que je le vois en photo, de Pascal Duquesne, je ne sais plus si vous vous en souvenez, mais Pascal Duquesne, il était d'un film avec, le film s'appelait... Oh, j'ai un blanc de mémoire et je n'arrive pas à le retrouver ici sur mes feuilles, avec Daniel Auteuil, ça s'appelait « 8 jours ». Et Pascal Duquesne était à l'époque un jeune homme. Il est trisomique, il fait de la trisomie 21. Et bien aujourd'hui, il est membre du jury. Il va y avoir 8 membres du jury et on retrouvera Pascal Duquesne parmi ces jurys-là. Alors voyez-vous, c'est pour ça que j'avais très envie de vous souligner cette nouvelle et j'ai très envie aussi, on va travailler là-dessus, de parler à quelqu'un. Et qui a mis ça en plan? Qui a mis ça en route? Quels sont les films? Parce qu'il va y avoir 130 films, dont 10 longs-métrages, tous consacrés à des héros paraplégiques, autistes, aveugles ou à leurs proches. Voilà, je vous laisse là-dessus. Bonne journée. Merci beaucoup, Laurence. Merci à la ministre Carla Quattro d'avoir accepté notre invitation. Bonne journée et à lundi.